Parlons vrai. 23h01, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Alors on va continuer à vous expliquer, grâce à Philippe Bruno qui est avec nous, comment se construit notre sexualité. Vous êtes notre éducateur sexuel, hein, Philippe Bruno.
Éducateur, en tout cas, j'essaie de vous amener sur des bonnes pistes, si on peut.
Non mais c'est important, parce qu'il faut rappeler quand même que vous êtes à la fois psychiatre. Bon, ok, ça... c'est pas très important, parce qu'il y a plein de psychiatres qui connaissent rien à la sexualité, ce qui n'est pas votre cas évidemment, parce que vous êtes sexologue, vous êtes anthropologue, donc ça veut dire aussi que vous avez étudié l'humanité depuis la nuit des temps, c'est pas rien. Et puis vous avez aussi fait beaucoup d'enquêtes, vous avez fait deux enquêtes avec deux livres très importants, Les hommes et les femmes, hein, un livre sur les hommes,
femmes. Effectivement, dans ce type d'études, et je crois qu'on ne peut pas faire autrement si on veut comprendre les choses, il faut dépasser l'expérience propre, qui est très intéressante. Il y a des tas de témoignages individuels. Et là, par exemple, les deux études que j'avais fait avec l'Observatoire du couple, c'était 3400 femmes, 2500 hommes. Et quand on se rend compte, lorsqu'on interroge autant de gens sur des éléments de l'intimité, que par exemple sur telle ou telle question, vous avez 80% des hommes ou des femmes qui répondent de la même façon, vous sentez qu'il y a une tendance qui a à voir, alors avec des choses apprises, avec des choses qui font partie de notre nature, bien sûr.
Et on devrait conseiller à tous les blogueurs qui parlent de sexualité de lire peut-être Monster & Johnson, le rapport Haidt, vos livres, parce que c'est vrai, moi ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus jeunes que nous et qui parlent de sexualité très très bien, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, mais il faut se baser sur ce qui a déjà été découvert, il faut pas inventer sous prétexte
qu'on sait, parce que beaucoup de gens se disent mais non, la sexualité, d'abord je fais l'amour donc je sais ce que c'est plus complexe, et notamment lorsque on a des difficultés, parce que très souvent, et une part des auditrices et auditeurs peuvent avoir telle ou telle difficulté, souvent on en parle ici à l'émission. Bon, Brigitte, il y a énormément de réponses qui sont données. Il y a des choses que nous savons, et c'est pas de l'intuition. Et pour moi-même, c'est pas parce que j'ai vu tant de patients, c'est que il se trouve en même temps qu'il y a des connaissances dans le domaine de la sexualité, de la sexologie, qu'on essaie de transmettre. Et là, on se trompe pas, parce que sinon, effectivement, on peut être suivi par des gens qui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, j'allais dire, de pseudo-sexologues, parce que c'est vrai on peut s'installer sexologue, hein, chacun des auditeurs peut le faire, mais c'est pas parce que on se sent bien dans sa sexualité, tant mieux. La sexualité, c'est plus complexe pour essayer d'aider les autres dans leurs difficultés.
Absolument, il ne faut pas parler de soi, il faut écouter les autres et se servir de sa connaissance, même si évidemment l'expérience est nécessaire aussi, parce que je ne pense pas qu'on puisse être sexologue si on n'a jamais fait l'amour. À mon avis, on aurait des réponses peut-être inhibantes. Alors, avant de donner la parole à Sylvie qui nous rejoint, je voudrais la réponse à ma devinette. Donc, un acte sexuel sur le plan des calories, ça correspondrait à une course de 7 km. Alors, pourquoi c'est faux?
Alors, parce que moi, je me suis dit, 7 km à pied, ça use, et puis j'ai pas trouvé quoi.
Mais parce que, comme les hommes font en général l'amour en 2-3 minutes, on peut pas courir 7 km en 2-3 minutes, Philippe Bruno, donc c'est une connerie.
Allez, c'est une petite connerie, mais c'est marrant. Oui. Merci, Brigitte.
Sylvie est avec nous. Je crois que vous aussi, vous allez recevoir un jouet, hein, puisque vous acceptez de témoigner dans cette très belle émission que je fais avec Philippe Bruno. Bonjour Sylvie.
Bonjour Sylvie.
Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe.
Alors, vous avez, vous aussi, reçu une éducation assez stricte, décidément.
Oui. Oui, très stricte, quasiment militaire. J'ai fait mes expériences toute seule, parce que bon, c'était très tabou à l'époque. Hein,
Donc, aucune information de la part de vos parents.
Non.
Et vos règles, elles vous avaient prévenu, votre mère, ou même pas?
Non, j'avais caché que j'étais réglée, quoi.
Mais vous saviez ou vous cachiez parce que vous aviez peur?
J'avais honte.
C'est ça, oui. Ça, c'est terrible.
Oui, oui. J'avais honte, oui.
Ben, on ne sait pas de quoi, mais vous n'aviez pas de quoi, mais vous aviez honte. Mais oui.
Oui. C'était Bon, après, pourtant, j'étais la dernière la dernière des enfants, et je voyais mes sœurs régler, mais moi, j'avais honte.
Et vous pouviez pas en parler avec vos sœurs?
Non. Parce qu'on avait quand même, comment dirais-je, les plus grandes, ils étaient déjà partis, mariés. Oui. Et avec mes sœurs qui étaient avant moi, non, c'était très, très tabou. Surtout, quoi, on se cachait pour se laver, c'était... c'était, comment dirais-je...
Oui, le corps, en quelque part, était rejeté.
Oui, on était tout à fait.
Il y avait une morale religieuse, peut-être, qui vous...
Non, surtout pas. D'accord. Non, pas religieuse, mais bon, c'était notre éducation, quoi. Oui. Il fallait se taire et...
Est-ce que avec le recul, vous avez des explications sur ce comportement de vos parents, pourquoi le corps et tous les plaisirs que le corps peut apporter étaient tabous? Parce que c'est pareil, se laver, c'est un plaisir dans des familles à peu près normales, hein. Tandis que là,
c'est
dans...
pour se laver.
Oui, j'entends bien. Vous avez aujourd'hui des explications? Qu'est-ce qui aurait d'où ça venait? C'était de leurs propres parents? C'était
de mes grands-parents certainement aussi, hein, parce que mes oncles et mes tantes et mes cousines, c'était pareil. Hein, c'était,
d'accord, donc c'est vraiment ça remonte.
C'est dans une région particulière. C'était dans une région particulière, en milieu rural peut-être?
Ah non, dans une grande ville, hein, encore en plus. Hein.
Milieu ouvrier, peut-être?
Oui.
Non, oui. D'accord. Très pauvre, ça, sans doute.
Ouais. Et oui,
oui, c'est pour ça, oui.
Parce que très souvent, lorsque, bon, à une génération, souvent, vous savez, on est le réceptacle des difficultés des générations précédentes. Si, par exemple, il y avait des difficultés ou grandes difficultés, c'est par la rigueur, par les interdits qu'on s'en sortait. Puis, on a parlé d'éducation militaire ou, c'était quand même des époques où il y avait toujours une guerre. Et en définitive, il fallait être prêt à se défendre, et notamment dans des milieux sociaux difficiles. Bah, il fallait. Alors, ça n'excuse rien, mais d'une certaine façon, je pense que ça culpabilise pas non plus. C'était comme ça. Vous savez, on le disait d'ailleurs, c'était comme ça.
Et vous étiez pareil, une famille nombreuse, d'après ce que j'ai entendu.
C'est ça, oui. Mais j'ai pas manqué d'amour avec ma maman. Elle était très aimante. Mon papa, non moins, parce qu'il était, il partait beaucoup en déplacement. Hein, on le voyait que le week-end et alors.
Il travaillait beaucoup, j'imagine.
Travaillait beaucoup.
Oui, donc c'est une famille de devoirs.
Hein, bien sûr.
Oui.
On en aimerait un peu plus des comme ça aujourd'hui, hein, remarquez, c'est lui.
Puis le devoir, ça interdisait la jouissance, parce que on était dans l'obligation. Il y avait des contraintes et il fallait surtout pas se laisser aller. Ça va à l'encontre de ce que demande la sexualité. La première condition de la sexualité, c'est le lâcher prise. Et on peut se relâcher si on est dans la contrainte et dans l'obligation. Et bien effectivement, on peut pas se relâcher.
Et alors, comment vous avez, qu'est-ce qui vous a permis de vous libérer un peu de toutes ces contraintes?
Comment dirais-je, moi, je suis découverte de très bonne heure, hein. J'avais 12-13 ans, quoi.
Ouais.
Je me suis découverte
toute seule.
En l'avant, hein. Ouais. Hein, je me suis touchée, caressée, et j'ai une sexualité très jeune. À 15 ans, j'ai eu mon premier rapport. Hein.
Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que vous avez fait le contraire. Vous êtes partie à l'inverse de ce que votre famille vous avait inculqué.
Oui. Et je crois que je suis la seule des frères et sœurs.
Vous êtes la rebelle, vous êtes le vilain petit canard.
Très rebelle déjà.
Oui, c'est
jeune,
non, mais absolument. Mais on le voit souvent dans des familles comme ça, très strictes. Et il y en a toujours un ou deux qui va être rebelle et qui va justement, jouir. C'est s'opposer à sa famille.
Hein. Et vous étiez vous étiez la plus jeune, hein, je crois, c'est ça?
Oui, la plus jeune. Mais je me suis découvert et sexuellement, J'ai découvert à 15 ans. Après, j'ai connu mon mari, mon ex, mon mari. Oui. Mm-hmm. Maintenant, on n'est plus ensemble, mais on a eu une sexualité très épanouie. On a fait du libertinage ensemble. J'étais mariée pendant 36 ans. Hein, je me suis pas séparée, ça fait 5 ans. Et là, j'ai connu un homme un petit peu plus jeune que moi. Car on a 5 ans d'écart, quoi. J'ai 62 ans. Mm-hmm. Et on vit une sexualité très épanouie, quoi.
Ben, oui, parce que vous avez très vite appris sur le tas, hein, puisque c'est pas vos parents qui vous ont ouvert à ça, mais bravo, ça montre que tout est possible. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je trouve toujours intéressant, c'est qu'il y a pas, il y a pas de dogme dans la manière dont se construit la sexualité d'un être humain. C'est chacun va faire comme il peut. Hein.
Oui, et puis vous avez appris toute la vie, parce que vous dites bien, il y a des étapes. D'abord, vous avez appris par vous-même. Alors peut-être le hasard, parce que la sexualité féminine, la découverte de la jouissance féminine, c'est quelquefois une histoire de hasard. Moi, j'ai demandé cela à tant de femmes qui racontent le début de leur sexualité, et vous le dites, un jour, pendant une toilette, vous découvrez quelque chose, tiens, c'est curieux, sensation particulière qui vous intéresse. Et à partir de là, vous allez vous autoriser à aller plus loin. Mais si par exemple, soit on vous avait totalement interdit, on avait parlé tout à l'heure, on entendait quelqu'un chez qui on avait attaché les mains, ou c'était la sœur avec qui on attachait les mains, mais peu importe. C'est-à-dire qu'il y avait un interdit de se toucher, eh bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, l'interdit n'avait pas été donné, même si on vous parlait pas de sexualité. Le hasard a fait aussi que vous vous rencontriez. Parce que, combien de filles ont dit, j'ai jamais compris, et le hasard n'a pas fait.
Évidemment. Mais merci en tout cas, merci beaucoup Sylvie de ce témoignage.
Merci Sylvie.
Alors vous le savez, c'est la fête des pères dimanche, Philippe, puisque vous êtes papa. Hein,
oui.
Donc on va fêter cette fête des pères, sur Sud Radio. Et donc j'ai le plaisir de vous offrir un bracelet personnalisé de la collection Lettres de levent@lafrançaise.com. Et donc si vous nous appelez au 0826 300 300, vous serez peut-être l'heureux ou l'heureuse gagnante.
Sud Radio Nice
97.9.
Sud Radio.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh, tell me that you've had enough of our love, our love.
Just a little bit's enough.
23h-1h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Philippe Bruno est avec nous et on continue à vous expliquer comment on se construit notre sexualité. Et puis, ben, je suis sûre que tout le monde qui nous écoute là, Philippe, est en train d'essayer d'analyser justement comment il s'est construit sexuellement.
Oh, peut-être pas quand même.
Et peut-être que vous découvrez des trucs absolument formidables sur votre sexualité. On va continuer avec Méline qui est avec nous. Bonjour Méline.
Oui, bonjour.
Bonjour
Philippe. Mon témoignage ressemble pas mal à celui de la personne précédente, hein, sauf que en fait, donc je sors d'une famille, j'étais la deuxième, ma sœur avait 18 mois de plus que moi. Je suis partie très tôt de la maison. J'avais une mère qui était vraiment très très coincée à ce niveau-là, qui ne nous a jamais parlé de rien. Et j'ai eu la chance de partir pendant un an en Angleterre avant de poursuivre mon cursus scolaire. Et du coup, c'est en Angleterre que j'ai découvert la sexualité. Donc c'était un peu
C'est en quelle année que vous partez en Angleterre?
Je suis en 77, donc vous voyez que ça...
C'est important parce que c'est en effet à cette époque-là qu'en Angleterre, les fameuses petites Anglaises, à nous les petites Anglaises, là, étaient peut-être un peu plus en avance que les Françaises.
Il y a eu les Suédoises et puis il y a eu les Anglaises.
C'est vrai.
À l'époque, il y avait des Iraniens absolument magnifiques qui étudiaient là-bas. Et dans les cours du soir, j'en ai rencontré un. Et malgré ma peur absolument terrifiante que j'avais de mon père, et surtout j'avais peur qu'il s'aperçoive qu'il y a quelque chose de changé en moi quand je rentrerai au foyer, j'ai passé le cap. Le problème, c'est que j'étais quand même relativement déçue de l'expérience. Je trouvais que c'était, on en faisait tout un plat. J'avais lu ça dans les livres, dans beaucoup de livres, et c'est vrai que ça me faisait quelque chose dans le bas du ventre, mais j'avais jamais été plus loin, j'avais jamais été curieuse.
Oui, mais vous n'étiez pas,
vous n'étiez pas
amoureuse. Oui. Vous le trouviez beau, mais vous n'étiez pas amoureuse.
Ah, si. J'étais très amoureuse, mais par contre, juste à la pénétration, ça me faisait pas grand-chose. Mmh. Et donc, quand je suis rentrée un an plus tard, j'en ai parlé à ma sœur, mais elle me dit, mais est-ce que tu te caresses? Tu t'es caressée en même temps? Me caresser? Et j'avais presque 18 ans, vous imaginez? Non, j'ai jamais touché là en bas. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que nous, ce genre de geste, c'était totalement prohibé. Mmh. Et ça me serait même pas venu à l'idée. Même si des fois, j'avais des
sensations. Alors que votre sœur, visiblement, était assez dégourdie, parce que c'est une époque quand même où se caresser en étant pénétré, c'était pas toutes les femmes qui avaient compris ça, hein.
Non.
Tout à fait, mais elle avait lu beaucoup, elle les disait beaucoup. D'ailleurs, la suite a fait que j'ai largement dépassé le maître. Mais du coup, j'ai essayé ce jour-là, et je crois que je me suis fait jurer au moins une dizaine de fois dans la journée, et que après, j'ai plus jamais arrêté, quoi. ça a été la clé de qui, c'était fantastique. Oh, j'ai dit, mais nom de Dieu, mais ça marche, et ça marche très très bien. Donc après, j'ai bien compris que moi, j'étais surtout clitoridienne et pas vraiment vaginale.
Comme 70% des femmes.
Plus de la moitié des femmes n'ont pas d'orgasme directement lors de la pénétration vaginale.
Oui, c'est ça, mais alors bon, les hommes le comprennent pas toujours et ils sont très très vexés des fois que bel engin.
Mais Méline, c'est même invraisemblable qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'hommes qui ne le savent pas. Parce que quand même, depuis le temps qu'on en parle...
C'est vrai, je suis d'accord avec vous. J'avertis au début, je vous avertis, et en plus, je suis peut-être très particulière, mais il n'y a vraiment que mon doigt qui réussit à faire quelque chose. Donc j'ai même du mal à me laisser toucher par quelqu'un d'autre.
Il n'y en a qu'un, c'est un doigt en particulier.
Croyez-moi, quand je me coupe le doigt, je suis très malheureuse.
Oh là là,
parce que je ne peux pas m'en servir pendant un moment.
Il faut le protéger, ce doigt, Méline.
C'est le doigt en or.
C'est le doigt en or, oui.
C'est tout à fait ça. Mais bon, après, j'ai appris sur le tas, forcément, mais elle m'a donné la clé et je la remercierai jamais assez, parce que si elle m'avait pas fait découvrir, j'aurais certainement découvert.
Il y a bien un homme qui vous l'aurait fait découvrir, parce que, comme visiblement, vous jouissez quand même très facilement.
Ah, pas tellement, puisque il y a que votre doigt qui fonctionne.
Oui, bien sûr, mais enfin, ça fonctionne
tellement
bien.
Ah oui, mais les hommes d'ailleurs doivent pas comprendre, parce qu'ils disent, mais enfin, j'y arrive pas. Mais bien sûr. Et vous avez dit, donner la clé. Il y en a qu'une clé. Il y en a une seule. Et vous savez comment se dit clé en grec? C'est clitoris, c'est le terme, c'est étymologiquement, ça veut dire la clé. C'était autrefois la clé de la sexualité. Et donc vous avez la clé par votre doigt et sur cette région un peu magique.
Oui, c'est vrai, mais je regrette parce que en fait, je trouve que un homme, il devrait y avoir des cours pour qu'ils apprennent à caresser un clitoris, parce que nous, on nous donne bien toutes les clés pour arriver à leur faire des sélections.
Soyons quand même, rendons aux hommes quand même ce mérite. Dans la dernière enquête sur la sexualité des Français, qui date d'il y a un peu plus d'un an, montre qu'il y a plus d'hommes qui pratiquent des cunis que de femmes des fellations. Hein, donc soyons, oui. Donc les hommes sont bien plus. Sont bien, vous avez peut-être pas rencontré les bons, Méline, mais c'est normal avec votre doigt magique.
Que vous oui, voilà. Et puis, vous savez, le fait qu'un homme ne puisse pas parvenir à ce que vous faites avec votre doigt magique, ça vient uniquement de votre doigt magique, ou plutôt de la façon dont vous êtes habitué à des sensations très particulières qui vont permettre de le déclencher. Et d'ailleurs, ce que moi je fais souvent avec des patientes qui sont gênées parce que je ne peux obtenir du plaisir que de telle façon, eh bien je vais leur demander, vous allez essayer de faire des tas de choses différentes vous-même d'abord. Et petit à petit, on voit que tout un tas d'autres choses deviennent possibles. Ça ne se fait pas immédiatement, c'est des habitudes, et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est conditionné. Vous n'étiez pas comme ça à la naissance, et vous êtes devenu dépendante de votre doigt magique.
Et plus vous allez penser qu'il n'y a que votre doigt magique qui peut faire, moins vous aurez des chances qu'il y ait autre chose qui vous amène à la jouissance. Et vous savez, c'est un petit peu comme quand on a dans un sport, on a un mauvais geste, que ce soit par exemple au tennis, hein, pour parler de tennis, puisque c'était Roland Garros la semaine dernière. Et ben, pour se défaire de ce mauvais geste, c'est toujours très compliqué. Alors, c'est pas un mauvais geste, votre doigt magique, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais non, c'est très compliqué de se défaire d'un mais on peut toujours y arriver. Donc, soyez pas, ça, un jour peut-être, il y aura autre chose qui vous déclenchera l'orgasme.
Non, bien sûr, mais j'ai essayé. C'est vrai que j'ai eu des cunnilingus fantastiques, etc. Mais à un moment, si vous voulez, c'est trop léger, ça va pas au rythme où j'ai envie, etc.
Oui, mais vous lâchez pas. C'est-à-dire que vous êtes là en train de vous dire, bon, d'accord, ok, mais il y a mon doigt magique qui va faire ça mieux.
Ça plus vite, et puis ça marche
mais,
bien.
Oui, mais parce que vous avez ça dans la tête, voyez.
Oui, certainement.
Vous n'êtes pas à ce moment-là dans votre ressenti des sensations qu'on vous procure. Vous êtes dans votre tête en train de vous dire, bon, de toute façon, je vais y arriver avec mon doigt magique. Vous voyez?
Et c'est ce
conditionnement qu'il faut un petit peu laisser de côté de temps en temps.
Ben oui, c'est ce qui s'appelle le lâcher prise. Tiens, je lâche la prise sur mon doigt magique. Et j'abandonne totalement mon corps. Mais est-ce que j'ai envie d'abandonner totalement mon corps à quelqu'un qui sait peut-être pas très bien faire?
Et vous touchez du doigt le problème, c'est que je le pratique pas dans la vie déjà.
Bien sûr.
J'ai très beaucoup 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 de mal à faire confiance, donc. C'est un tout, vous avez raison, vous avez complètement raison. Mais c'est vrai que j'avais pas compris que c'était lié à ce point.
À ce point, oui. Mais attendez, vous avez votre doigt magique, alors on va pas vous plaindre.
non, c'est certain. Mais bon, peut-être qu'effectivement, je laisse pas beaucoup de chance à l'autre d'y arriver. Effectivement, je fais pas assez confiance et je pratique pas assez.
Écoutez,
de lâcher prise, vous avez tout à fait raison.
Peut-être qu'un jour vous aurez envie de faire confiance quand vous rencontrerez celui qui peut-être arrive à vous ouvrir un peu plus.
Ça s'appellera Merlin. Ça sera Merlin l'enchanteur.
Merlin l'enchanteur.
Moi je cherche depuis ouh tout ça.
En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage et de votre bonne humeur, Méline.
Merci, Méline.
On fait une petite pause, on se retrouve avec le sexo-conseil. Comment mettre de l'audace dans sa vie sexuelle? Et puis, on continue bien sûr avec vous à parler de la construction de la sexualité.
Sud Radio Tarascon.
95.2.
Sud Radio.
Que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que
que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le sexe au conseil.
Alors, Philippe Brenneau, on va voir comment mettre de l'audace dans sa vie sexuelle. Alors, d'abord, il faut trouver quel est le ressort qui va permettre de lâcher quelque chose. Alors, je vous propose un petit test. Vous imaginez que vous êtes avec la star de vos rêves.
Oui.
Et quelle serait votre manière de lui faire l'amour? Et déjà, votre réponse va vous en dire un petit peu plus sur votre capacité à vous mettre en route sexuellement. Parce que là, on est dans l'imaginaire avec une star, donc on est prêt à développer des tas de choses, voilà. Ensuite, il faut que vous sortiez du cadre, évidemment,
oui.
C'est-à-dire de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, il y a plusieurs manières de sortir du cadre, par rapport au lieu, par rapport à une position, par rapport à des actes. Et évidemment, il faut oser quelque chose de nouveau. Alors, plus on est dans des habitudes très régulières, répétées, pour
oui,
pas dire à la routine.
C'est facile de faire quelque chose de nouveau.
Oui, mais moins on a envie.
Et moins
parce
on
que
a envie.
C'est toujours pareil. Parce que quand on est dans une sexualité très routinière, c'est certainement
oui.
parce qu'il y a beaucoup de blocages qui sont un peu inscrits
c'est
sans
aussi,
qu'on s'en rende
oui.
compte. Et, ou alors il y a des croyances, enfin bref, ou une éducation un peu trop stricte. Et pour débloquer tout ça, c'est pas simple. Alors, il faut d'abord, voir ce qui pourrait vous empêcher de faire autrement. Qu'est-ce que vous penseriez si vous faisiez autrement? Et puis
j'aurais
après.
J'aurais honte. je serai...
Voilà, elle va, elle va pas aimer, que...
oui, oui, oui.
Je risque de perdre mon érection, enfin...
Je peux ne pas être à l'aise, oui,
Il y a plein de raisons qui font que vous vous êtes habitué à cette routine, mais qu'en même temps, cette routine, vous la trouvez un peu...
Ben, c'est comme ça que la routine, elle se limite quelquefois à peu de choses, parce qu'il y a le rhumatisme de l'un, il y a l'habitude de l'autre, la peur d'une troisième position, oui, bien sûr.
Et donc, il va falloir oser un petit changement, tout petit changement, pour vous rendre compte que ben quelque chose de nouveau, ça apporte beaucoup, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Et donc, un petit changement, pourquoi pas de lieu, pourquoi
déjà
pas...
changer de lieu, c'est certainement... parce qu'on est quand même tous dans des lieux qui sont contraints. On vit, si on vit en ville, on vit dans un appartement, il y a deux, trois pièces. On fait souvent d'ailleurs l'amour toujours dans la même pièce, quelquefois dans une autre. Mais changer totalement de lieu va complètement changer la façon de se comporter, de vivre, de ressentir l'autre, oui.
C'est pour ça que j'imagine. Enfin, il faut imaginer qu'on fait l'amour avec une star. Ou alors, c'est vrai que la pornographie parfois donne des idées. Hein. Il faut lui reconnaître.
C'est pour ça que c'est... Oui, bien sûr.
Il faut lui reconnaître cette utilité. Ophélie, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Émilie.
Eh bien, on vous écoute. Alors, vous vouliez vous faire l'amour au départ avec un prince charmant, c'est ça?
Ouais, je vivais dans le monde des bisounours.
Bah oui, bah.
Enfin, mon idée de la vie, c'était ça.
Vous savez, voilà. moi aussi, alors, comme quoi, tout peut bouger. Hein.
Voilà,
moi,
tout à fait.
Moi, j'ai pas tellement rêvé de prince charmant, mais.
Une princesse, peut-être.
De princesse, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Bon, après, moi, j'avais ma mère assez jeune, bon, on avait parlé de règles, de faire attention, que si le jour où j'avais envie de prendre la pilule. Après, mes parents n'étaient pas très démonstratifs eux-mêmes dans leur couple.
Mais quand même, vous avez eu les informations minimales.
Oui. Pas complètement. Le jour où j'étais décidée, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, ben voilà, je voudrais prendre la pilule, il n'y a pas de problème. Après, j'avoue, j'ai très mal commencé. J'allais avoir 14 ans, j'ai été violée. Donc, pour moi, l'acte n'était pas quelque chose qui m'intéressait, du coup.
Ben non, mais c'est un mauvais départ, hein. Il n'y a pas de doute.
Ouais, hein. Oui. Alors après, le jour où je suis vraiment tombée amoureuse, voilà, j'en ai parlé à ma mère, j'ai pris la pilule et ça s'est relativement bien passé. Voilà, il a brisé mon rêve de prince charmant parce qu'il m'a trompée à tire-larigot, donc voilà, ça s'est terminé. Puis du coup, je me suis rendu compte qu'un partenaire, c'était pas pour la vie, voilà. Puis je suis tombée sur le père de ma fille. Bon, c'était pas l'extase sexuellement non plus.
Ça, on s'en doute, parce que quand on dit je suis tombée sur le père de ma fille, on se doute bien que ça n'a pas été l'extase.
Voilà, donc j'ai découvert le plaisir de la sexualité, donc avec les partenaires suivants, mais toujours dans l'impression que j'étais qu'un objet sexuel en fait, et qu'il n'y avait pas forcément cette idée qui était intéressée à moi, vraiment pour moi, et que pour la sexualité. Du coup, les vies de couple allant, j'étais déçue à chaque fois. Donc, on va dire que ça fait, une dizaine d'années que je vous écoute. Et du coup, je m'étais rendu compte que je m'étais mis des barrières aussi, où je ne faisais l'amour que quand j'avais des sentiments. Voilà, et j'ai...
Alors ça, merci de rappeler cette chose-là, Ophélie, parce qu'il est évident, et c'est une femme qui vous le dit, donc je suis moi aussi, et puis parfois tombée dans ce travers. Quand on est amoureuse d'un homme, on va être tellement dans son désir à lui qu'on en oublie notre propre désir. Et donc, si on ne fait l'amour que quand on a des sentiments, on ne peut être qu'un objet sexuel, puisqu'on ne va faire l'amour que... par rapport au désir de cet homme qu'on aime. Et c'est parce qu'on va accepter d'aller faire l'amour pour soi, avec peut-être un homme qu'on rencontre, qu'à ce moment-là, on va oser un petit peu demander ou faire ce qu'on a envie de faire, vous voyez ?
Oui, donc du coup, je me suis ôté plein de barrières, ce qui fait grâce à vous, en écoutant les témoignages de tous vos auditeurs. Ça m'a libérée et du coup, je dis plutôt tant qu'à être un objet sexuel, avoir plusieurs partenaires et devenir libertine. Donc je m'étais préparée à l'idée jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui m'a dirigée dans ce sens-là. et d'un profond sentiment que j'avais également d'être peut-être bi. Ben, ça s'est confirmé, puisque en étant dans le libertinage, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes, et voilà, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les femmes. Avant cette rencontre, tout en étant encore dans le côté...
Qu'est-ce que vous appréciez plus chez les femmes, sexuellement justement, parce qu'elles sont plus aptes à vous faire jouir avec les cunis, ou est-ce que c'est vous qui aimez faire des cunis? Qu'est-ce que vous diriez?
L'échange de caresses, tout simplement.
Le corps d'une femme plus
la façon de caresser qui est pas la même que qu'un homme. Oui. Effectivement, il y a le côté de je caresse un corps qui est le mien et dont je connais toutes les ressources, et c'est très vrai. C'est beaucoup plus vrai pour les femmes, j'allais dire que pour les hommes, non. C'est très vrai dans les deux sens.
Oui, un corps de femme est plus doux, plus mou, plus un corps d'homme est souvent plus
ah oui,
dur,
hein,
au niveau de la musculature, etc., etc. Absolument.
Mm-hmm. Voilà, effectivement, j'aime pas les hommes trop musclés non plus.
Et oui, du coup,
avec un petit doux, par exemple. Mais voilà. Et entre temps, avant de commencer le libertinage, où vous parliez de personnes âgées, j'ai eu une relation qui malheureusement a été très courte parce que, ben voilà, c'était un monsieur très âgé et malheureusement il est parti. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir une très belle relation avec ce monsieur.
Oui.
Et, pardon, excusez-moi.
Je vous en prie.
Donc, j'ai découvert le libertinage dans lequel, je trouve beaucoup de... J'aime bien la diversité que ça m'apporte. Et j'ai même découvert la vie de troupe.
Voilà. En tout cas, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, Ophélie, vous me direz si je me trompe, mais j'entends que actuellement vous êtes dans la recherche justement de ce que pourrait être votre sexualité. J'ai l'impression que c'est une recherche un peu ouverte à beaucoup de choses, et c'est certainement un passage. Je pense qu'à un moment donné, vous trouverez un partenaire ou une partenaire d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est une recherche. Hein,
oui, parce que vous n'avez pas fini de chercher. Ça, on entend ça.
Oui, on entend ça. Oui.
Ben là, je vous avouerai qu'il y a à peine 15 jours, j'ai vu quelque chose d'assez troublant, parce que j'ai fait la connaissance d'un homme que je connaissais plus ou moins, puisque je l'avais croisé déjà 2-3 fois depuis un an et demi à peu près, lors de prestations de service. Mais voilà, croisé. Et là,
ça s'appelle quoi, prestations de service?
Je suis animatrice de soirée. Voilà.
D'accord.
Et donc, lors de soirée, je l'avais rencontré. Et là, j'étais pas animatrice. J'étais là pour d'autres raisons lors de cette soirée. Et quand je l'ai vu, je me suis avancée vers lui pour lui dire bonjour, puisque je le connaissais plus ou moins de vue. Et on se disait bonjour lors de ces soirées-là. Et sur le coup, même moi-même, je me rappelais pas où l'avoir vu, parce que je fais tellement de soirées que du coup, sur le coup, je me posais la question, l'impression de vraiment l'avoir déjà vu plusieurs fois. Et donc, en discutant, on a retrouvé le lieu où on se voyait. Et là, un sentiment de connexion qui arrive tout doucement. Il me regardait avec intensité ici et là, et on s'est rapprochés sans aller très loin, hein, mais puis finalement on a fini par se retrouver, ça fait 15 jours donc déjà 2-3 fois, et franchement moi qui suis jamais en train d'envoyer un message, jamais appelé personne, rien. Ben là, je me trouve comme une ado, à envoyer des textos toute la journée.
C'est formidable, on ne peut vous encourager à continuer, Ophélie. Peut-être que votre recherche est peut-être plus terminée qu'on ne l'imaginait. Allez savoir, vous nous raconterez ça peut-être plus tard. En tout cas, c'est le moment d'accueillir Laetitia, qui est notre gagnante de ce jeu Fête des Pères. Bonjour Laetitia.
Bonjour Brigitte.
Bonjour Laetitia, oui.
Alors vous avez... Ben, bravo d'abord, hein, puisque
merci,
c'est vous
beaucoup,
qui avez gagné. Ben non, je vous en prie, c'est un plaisir de vous offrir avec Sud Radio ce bracelet personnalisé de la collection Lettres. de levent-à-la-francaise.com. Donc vous connaissez le principe peut-être, vous pourrez choisir la lettre initiale de votre choix, alors soit la vôtre ou celle de votre père, et c'est donc une belle manière de, pour vous de fêter dimanche la fête des pères.
Eh ben merci beaucoup, je vous remercie tous ainsi que toute l'équipe.
Eh ben merci de nous avoir appelé, Laetitia. Vous pouvez bien sûr aller voir ces bracelets sur levent-à-la-francaise.com. On fait une petite pause et ben il va déjà être le temps de conclure, Philippe Bruneau.
Sud Radio à Chalon-sur-Saône en DAB+.
Sud Radio.
Je voudrais seulement te dire que je veux te voir sourire. Je n'ai pas plus à te dire que je t'aime et te
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Philippe Bruneau est avec nous, psychiatre, anthropologue, sexologue. Je rappelle que vous avez écrit beaucoup de livres. On n'a pas parlé non plus de celui-là qui peut vous intéresser. Pourquoi c'est si compliqué l'amour, qui peut vous aider aussi à mieux comprendre justement pourquoi c'est si compliqué.
Pourquoi c'est si compliqué, ça c'est vrai.
Parce que c'est vrai que c'est quand même très compliqué l'amour.
C'est pas difficile, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'amour vient d'abord... Ça ne se vit pas seul. On peut être amoureux de soi, oui. Mais le problème, c'est qu'il y a les pulsions, les désirs, les pensées de l'autre sont différentes. Et là, ça devient très compliqué parce que chacun, on n'a pas résolu tous nos problèmes et on va cheminer plus ou moins bien avec des choses qu'on se trimballe depuis longtemps.
Évidemment. On continue et on va conclure avec vous, Arnaud. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Arnaud.
Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter ?
Du coup, oui, je trouve que la question est vraiment très intéressante et je dirais, pour moi, ma vision, c'est que on peut être toujours bercé entre ces deux polarités, je dirais, entre notre rythme socioculturel dans quoi on a grandi et nos désirs, à quoi ils sont, je dirais, confortés. Et de l'autre, hein, quelque chose de beaucoup plus instinctif. Est-ce que on a vraiment la sexualité qu'on désire? Je trouve que ça, c'est un espèce de travail avec de l'expérience, en se confrontant vraiment au sujet et en expérimentant vraiment dans des choses nouvelles. Mais je trouve que en fonction des personnes qu'on rencontre, en fonction d'une vraie écoute de soi, je pense qu'on peut vraiment presque s'étonner, je dirais.
Oui, mais vous avez raison, parce que nos vrais désirs, parfois ils sont totalement enfouis et on va souvent on commence à faire l'amour parce que on est amoureux, donc pour faire plaisir, pour s'attacher l'autre. Ou alors on fait l'amour pour se prouver qu'on est désirable. Enfin, et nos vrais désirs, parfois, on met du temps à trouver exactement ce qu'ils sont.
Mais oui, vous le dites bien d'ailleurs. Vous dites, est-ce qu'on a vraiment la sexualité qu'on désire? Mais oui, mais c'est que ça se passe pas seul. Ou alors à ce moment-là, il faut y réfléchir. Tiens, ça ne me convient pas avec tel partenaire ou autre. Le problème, c'est la rencontre. Et très souvent, le fait qu'on s'attache. Parce que, tiens, il y a eu un crush, il y a eu un... J'aime bien ce terme des plus jeunes aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous... Et on est ensemble, mais est-ce qu'on a la sexualité qu'on désire avec celui ou celle avec qui on est? Pas forcément. Hein, c'est... Vous avez complètement raison, c'est... Et d'un autre côté, est-ce qu'on doit à chaque fois... interrompre la relation si elle est très ancrée, hein, si on y a un attachement fort, ben on le fait pas.
Exactement, et je crois que c'est un espèce d'équilibre entre les deux où il faut presque savoir que au final on est au détriment, comme vous l'avez dit, de l'amour, mais est-ce que ça nous enlise dans une sexualité du coup qui est, je dirais, orientée? Ouais, et oui. Au final, on ne s'épanouit pas et on ne sait même pas qu'on peut s'épanouir dans une vraie relation. Et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment besoin de vraiment s'épanouir? Et je pense que c'est un peu cette mesure-là à déjà prendre en considération. Et ensuite, pour que le choix soit beaucoup plus orienté et conscient, c'est à partir du moment où on sait ça, eh bien, on va pouvoir avoir peut-être un choix plus conscientisé.
Eh oui, le sexe et l'amour, c'est pas forcément...
C'est pas la même chose.
Ça va pas forcément toujours bien ensemble. Mais ce qui est quand même certain, c'est qu'il y a un langage des corps. Et on peut être très attiré par quelqu'un physiquement, et puis sur le plan du langage des corps, ça ne marche pas. Il y a quand même cette alchimie des corps qui ne s'explique d'ailleurs pas, comme d'ailleurs le sentiment amoureux ne s'explique pas non plus, hein, sur un plan rationnel. Ça s'explique à d'autres niveaux, mais pas rationnellement. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et moi je dis toujours, oui, on peut vraiment améliorer sa sexualité quand on est avec quelqu'un, à condition qu'on ait des peaux qui quand même peuvent se sentir. Si l'odeur de l'autre ne nous plaît pas, je ne vois pas comment on peut arriver à une sexualité qui soit harmonieuse.
Et Brigitte, vous avez raison, parce que c'est au niveau de l'odeur, de l'olfaction, c'est le sens le plus archaïque que ça se passe. On peut très bien être attiré, et la rencontre se fait visuellement de loin. Je suis attiré par une silhouette, et j'approche, ça continue à m'attirer, les détails, il y a un toucher de la main, ainsi de suite, et si là, il y a une odeur, il y a une texture, il y a... c'est rédhibitoire. Et par contre, c'est ce qui va nous marquer le plus profondément, parce qu'il y a beaucoup de silhouettes qui nous attirent. Par contre, il y a très peu de peau, et ainsi de suite, avec lesquelles on se sent totalement en harmonie. Et ça, exactement ce que vous dites, ça ne s'explique pas.
De même, Arnaud, quand il y a quelque chose, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais il y a des femmes qui, par exemple, ne supportent pas les hommes très poilus. Oui. Bah, si quand l'homme se déshabille et qu'il a la poitrine recouverte de poils, ça va lui couper sa libido. Il y a rien à faire. Ça sera un carton rouge, comme j'aime dire. Et vous avez, vous aussi, les hommes, Arnaud, des attirances qui sont très marquées. Et si c'est une femme qui correspond absolument pas, ça sera compliqué.
Exactement, et je pense qu'en fait, ce qui m'a permis moi de m'en rendre compte, c'est en fait en ayant plusieurs, enfin différentes expériences avec d'autres personnes, et c'est là où en fait j'ai pris la mesure et le relief de l'alchimie qu'il peut y avoir entre deux personnes, parce que oui, si on arrive avec une certaine typologie de personnes, et ben on va faire l'amour de façon conventionnelle, sans en ayant, je dirais, une excitation, je dirais, normale, mais en fait c'est en ayant différentes sexualités avec différentes personnes qu'on arrive à mesurer justement cette alchimie d'une manière plus grande, je dirais. Parce que là, je vais vraiment savoir qu'est-ce qui va m'attirer et me découvrir aussi dans diverses sexualités. Et c'est là où je trouve qu'on prend vraiment la mesure où il y a quelque chose qui match ou non, je trouve.
Et je reviens sur ce que vous disiez, Philippe Bruno, sur l'odorat. J'ai interviewé récemment Emma Becker et j'adore parce qu'elle dit de toute façon l'odeur. Si on veut que ça sente bon, le sexe, on a tout faux.
Bien sûr.
Et je crois que c'est vraiment ça, l'odeur de l'autre, quelque part, doit nous exciter.
Ah oui.
Si quand on fait une fellation ou un cuni à notre partenaire et que son odeur nous dérange un peu, ça peut pas coller, quoi. Il faut qu'elle nous excite, son odeur. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Arnaud.
Tout à fait, oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup même le fait de croire qu'on reconnaît sorte d'âme sœur ou de gens qui nous est prédestiné à l'odeur. Et qu'on a un peu changé ça avec les parfums, etc. Mais je pense vraiment que l'odeur du corps génère finalement une transpiration, une évacuation des molécules intérieures. Et donc du coup, le fait de le sentir, c'est un premier message, je crois, une possibilité entre deux personnes, quoi.
Et donc, ça veut bien dire, pour conclure cette émission, Philippe Bruno, que le sexe, c'est d'abord nos cinq sens, et c'est pas notre tête. Hein.
C'est nos cinq sens, et puis pas tous les sens, on le disait bien, c'est ceux de proximité, et vous le disiez aussi, il y a un instant, c'est justement cette espèce d'alchimie. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du... Dans l'alchimie, il y a quelque chose de mystérieux. Hein, on cherchait le secret de l'alchimie, et bien c'est ça, il y a un secret de l'amour qui est alchimie.
Merci à Arnaud en tout cas.
Merci beaucoup,
merci,
Arnaud.
Merci beaucoup et merci à vous, Philippe Bruno. Je ne peux que vous encourager à lire Philippe Bruno. On vous retrouve, hein, tous vos livres pratiquement sont sur les sites, que ce soit la Fnac ou Amazon. Merci Philippe, à très bientôt.
Merci Brigitte, à bientôt.
Alors demain on sera avec un autre Philippe, on sera avec Philippe Arlin et nous aborderons comment retrouver une sexualité épanouie malgré des abus sexuels. C'est important aussi d'aborder ce sujet parce que ça ne s'arrête pas après un traumatisme. On peut rebondir et ce sera donc avec Philippe Arlin qu'on verra tout ça. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Vous êtes fatigué.
Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec l'émission. Brigitte.
Bon, alors je suis rassurée. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Oh là là, c'est moi qui suis fatigué avec Alexandre Delovan. À demain.
Sud Radio Marseille, 95.1 et en DAB+.
Sud Radio.
Un peu de moi, juste là, comme si j'avais attendu ça toute ma vie, sans le dire, sans jamais oser rêver de ce qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi moi, mais je suis là, et je ne veux plus jamais quitter cet endroit. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir. Et qu'on me laisse tout essayer, tant que dans le miroir je me reconnais, j'en ferai
des erreurs et des déçus, ça je le sais, on voulait pas d'être moi. Je cherche encore à savoir ce qui me va, ce qui me va. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir. Ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir, un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir.
À suivre, c'est votre avenir sur Sud Radio.
Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Bétonne, ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne me fâche, je sais. J'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer pour ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bagne. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. J'ai dépassé les limites aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en rebond. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer. I'm